lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un programme, et non des moindres, vient booster les efforts des différents acteurs. C'est le projet Transition Bas Carbone. Et dans ce sens, un atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux relativement aux mécanismes de mesure de notification et de vérification s'est tenu du 20 au 23 février 2024 à Abidjan. Comment ce programme va-t-il s'exécuter et avec quel support financier? Pour en parler, je reçois le coordonnateur national du dit projet.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Zakpa Frédéric, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'entend-on par transition bas carbone? Est-ce un nouveau concept, un projet ou un slogan? Pouvez-vous en un mot décliner le contenu de ce programme?
Il y a trois donc grandes composantes dans ce projet-là. La première composante contient donc deux résultats. Le premier résultat, c'est d'asseoir, renforcer la gouvernance climatique à travers la mise en place d'une coordination aussi bien au niveau des partenaires techniques et financiers, mais surtout au niveau des ministères clés, le secteur privé et les organisations civiles. Dans cette première composante, évidemment, on va asseoir un système de suivi et évaluation des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment des gros résultats donc, de la composante 1. La deuxième composante, c'est d'arriver à intégrer les changements climatiques dans la planification sectorielle. Vous savez qu'aujourd'hui, les ministères travaillent sur la base de documents stratégiques. Quand vous allez par exemple au ministère de l'Agriculture, ils ont ce qu'ils appellent le PENIA, qui est le programme d'investissement agricole. Quand vous allez au ministère des Eaux et Forêts, ils ont la SPREF, qui est la stratégie de préservation et de valorisation des forêts en Côte d'Ivoire. Donc finalement, il y a des projets qui sont mis en œuvre. Mais est-ce que dans ces programmes-là, les questions de changement climatique sont prises en compte? Ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait des efforts dans le cadre donc, de ce PND qui est en cours et dans les politiques sectorielles. Mais nous voulons renforcer ces stratégies-là pour que, en leur sein, il y ait donc les changements climatiques. Au niveau des régions, vous savez que les communes des régions travaillent sur la base de ce qu'ils appellent des programmes triennaux, mais qui sont souvent axés sur des investissements comme la construction d'écoles, la construction de maternités. Mais les questions climat ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc nous voulons amener les collectivités à jouer leur rôle. Mais ce que nous leur proposons, ce sont des petits engagements au niveau local qu'on appelle des plans climat locaux. Donc amener les collectivités à élaborer les plans climat locaux, les accompagner pour mobiliser les ressources et puis les mettre en œuvre. La dernière composante, c'est vraiment l'information, c'est la sensibilisation, c'est la communication. Nous allons sélectionner des organisations de la société civile à qui nous allons octroyer de petits moyens pour leur permettre d'élargir notre champ de communication et d'information. C'est sur cela même que je voudrais vraiment saluer votre initiative. C'est vous qui êtes venu vers nous. Alors que ça devait être l'inverse. L'information pour nous est le capital. Les questions du changement climatique sont importantes. D'ailleurs, le ministre, au niveau du ministère de l'Environnement, fait de l'information et de la communication une priorité. Parce qu'on estime aujourd'hui que beaucoup parmi la population ne savent même pas ce que c'est que le changement climatique. Et c'est notre rôle au niveau de la direction. C'est pourquoi je voudrais saluer votre action. Là.
Ce projet dénommé Transition Bas Carbone, que va-t-il apporter de plus à la lutte contre le changement climatique?
Vous savez qu'aujourd'hui, la grosse difficulté pour la Côte d'Ivoire, et nous ne sommes pas le seul pays, hein. On prend des engagements, mais il n'y a aucun dispositif pour mesurer l'impact des actions qui sont menées. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets. Quand vous prenez par exemple les partenaires, ils financent beaucoup de projets. La Banque mondiale, l'Union européenne, le PNUD, bref, ils financent beaucoup de projets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif au niveau national pour dire qu'à ce jour-là, voilà les efforts qui sont faits? Ce projet contribuera à mettre en place ce dispositif-là et donner les éléments de langage à nos gouvernants et communiquer avec le secrétariat de la Convention pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a pris certes des engagements, mais voilà les acquis par rapport aux actions qui sont menées. Ce projet va aussi permettre de communiquer sur les changements climatiques. Parce que quand vous allez sur nos populations qui souffrent des impacts des changements climatiques, les collectivités décentralisées, elles n'ont pas suffisamment d'informations. Aujourd'hui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est beaucoup connecté, mais quand vous allez dans des régions, ce n'est pas tout le monde qui a l'Internet aujourd'hui. Comment arriver à mettre en place un dispositif de communication qui nous permet d'aller plus loin d'Abidjan, dans nos régions, pour qu'ensemble, on partage avec notre population déjà les contenus des engagements climatiques qui sont pris par la Côte d'Ivoire, mais également pour les accompagner à élaborer des plans climat locaux et à mettre en place toute la stratégie pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Donc, on attend beaucoup de projets et nous avons espoir que nous allons atteindre ces résultats-là. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays est impacté par les effets des changements climatiques et cela se fait ressentir dans tous les secteurs d'activité. Notre pays est un pays qui repose sur l'agriculture, son économie repose sur l'agriculture, Alors aujourd'hui, à cause de l'impact des changements climatiques, la productivité a baissé, les rendements agricoles ont baissé. Aujourd'hui, nous assistons à des vagues de chaleur qui parlent de baisse de rendement, parlent évidemment de difficultés liées à beaucoup d'autres choses, notamment la scolarisation. Bref, ce sont de nombreuses familles en Côte d'Ivoire qui sont impactées donc par les changements climatiques. Il nous faut renverser la donne. Quand on parle de changement climatique ou de lutte contre le changement climatique, il faut voir deux gros concepts. Le premier, c'est donc l'atténuation. Qui parle d'atténuation? C'est la réduction, c'est la diminution. Mais qu'est-ce qu'on réduit? Les émissions de gaz à effet de serre.
Et qu'est-ce que c'est que les émissions de gaz à effet de serre? Comment ça se présente?
Pour peut-être l'Ivoirien lambda, l'homme de la rue, les émissions de gaz à effet de serre sont des particules qui sont émises dans l'atmosphère. Ça peut être des molécules qui sont émises dans l'atmosphère. Mais quand on prend par exemple le secteur des déchets, vous voyez quand il pleut, que les déchets sont entassés, pêle-mêle dans la ville, vous voyez une fumée blanche qui s'échappe. On a l'impression que c'est de la vapeur. Mais ce sont ces particules-là qui s'évaporent et qui vont se stocker sur la couche d'ozone. Et ces particules-là, lorsqu'elles sont émises dans l'atmosphère, peuvent passer plus d'années que celui-même qui les a émis. Donc ce sont des gaz qui résistent pendant de longues années et qui détruisent la couche d'ozone. On a appris tous à l'école primaire que la couche d'ozone, elle est là pour nous protéger du rayonnement qui provient du soleil. Mais lorsque ces particules vont, au fur et à mesure, par rapport à nos activités humaines, se stabiliser ou aller s'asseoir, si on peut le dire ainsi, sur la couche d'ozone, elles la détruisent au fur et à mesure. Donc elle perd sa capacité originelle de nous protéger contre les rayonnements solaires. Donc au lieu qu'un plus grand rayonnement du soleil réfléchit par donc cette couche-là, comme elle n'a plus sa capacité originelle de faire retourner un taux important de rayonnement solaire, ce rayonnement-là perce la couche d'ozone et c'est ce qui arrive sur la Terre. Donc évidemment, il va faire plus chaud. Donc lutter contre les changements climatiques, c'est faire en sorte de comment nous devons nous comporter qui peuvent nous permettre donc de réduire ces émissions-là. Alors donc, le premier point, c'est donc la réduction des émissions. Mais quand nous allons plus loin, il y a aussi le volet adaptation. Quand vous n'avez pas pu réduire les émissions de gaz à effet de serre, que vous vivez les impacts du changement climatique, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quels sont les dispositifs qu'on met en place pour renforcer notre résilience et lutter face au changement climatique? C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Aujourd'hui, quand on prend par exemple notre zone côtière, elle est en train de, au fur et à mesure, avancer. Dans le cadre d'un projet, nous sommes allés donc, pour visiter la zone côtière. Et ceux qui nous ont accompagnés nous disaient, le chef du village, qu'il y a 2 ans de cela, la mer était encore loin. Mais aujourd'hui, toutes les tombes de ce village-là, qu'on appelle la Oupanda, ont disparu parce que la mer avance. Quels sont les dispositifs qu'on met pour freiner l'avancée de la mer? Donc, voilà les gros points. Et la Côte d'Ivoire, son engagement sur la réduction des émissions, c'est 31% de réduction. C'est-à-dire, quand on convertit tout le gaz, parce qu'il y a plusieurs types de gaz, tout est converti en CO2 pour faciliter la compréhension. Donc, nous sommes engagés, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire près de 37 millions de tonnes équivalent CO2 en termes de gaz, mais surtout sur le volet d'adaptation, de renforcer la résilience de 5 secteurs qui ont été identifiés comme étant vulnérables au changement climatique.
Évidemment, lesquels?
Il y a donc le secteur de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. Il y a le secteur de la forêt. La Côte d'Ivoire a perdu son couvert forestier. Aujourd'hui, pour ne pas alarmer, on dit qu'on est à environ 2-3 millions d'hectares. Mais ça, c'est quand on y intègre tout ce qui est réserve, tout ce qui est parc. Mais évidemment, donc, des efforts doivent être faits pour que la Côte d'Ivoire puisse redorer son couvert forestier. L'autre, ce sont les ressources en eau. Vous avez entendu à Abidjan ici, à Boaké, partout, il y a eu des crises d'eau, les populations se sont levées parce que les nappes sont en train de sécher. Il y a la zone côtière aujourd'hui, la mer avance à grands pas. Quels sont les dispositifs qu'on prend pour bloquer donc cette avancée-là? Et puis finalement, il y a le secteur de la santé. On l'a vu avec la Covid, avec ces nouvelles maladies qui arrivent. Avant, c'est le paradigme qu'on connaît, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont dues donc au changement climatique, soit à l'inondation. Voilà donc les 5 secteurs pour lesquels la Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie pour renforcer notre résilience.
Et donc, la Côte d'Ivoire est partie de... Parce qu'à l'époque, c'était 28%, 28 et quelques pourcents. De 28%, on arrive à 31%.
Tout à fait. Parce que quand la Côte d'Ivoire a signé l'accord de Paris, la Côte d'Ivoire a élaboré ses premiers engagements pour lutter contre les changements climatiques. Et dans cette première version des contributions, la Côte d'Ivoire s'était engagée évidemment à réduire de 28,25%, ce qui correspondait à l'époque à environ 10 millions de tonnes équivalent CO2. Mais selon les dispositifs de l'accord de Paris, quand vous devez réviser ces engagements, après 5 ans de mise en œuvre, vous devez les rehausser. Et donc, la Côte d'Ivoire a rehaussé son ambition, mais nous l'avons fait parce qu'on n'avait pas intégré un certain nombre d'informations dans la première version, notamment les émissions issues du secteur de la forêt, parce que le mécanisme RED+ n'était pas tout à fait opérationnel, donc on n'a pas eu le maximum de données. La deuxième insuffisance, c'est que la Côte d'Ivoire n'avait pas adossé à cette première CDN-là un plan d'investissement. Vous savez que les changements climatiques, ça coûte cher. Nos États ont déjà des priorités, l'éducation, la sécurité. Donc, mobiliser beaucoup de ressources au niveau national paraît donc un défi majeur. Donc,
justement, quels sont les défis, effectivement, auxquels l'exécution du projet transition bas carbone est confrontée?
Le premier défi, c'est donc la coordination au niveau national. Il y a beaucoup d'initiatives sur le changement climatique, mais cette coordination manque au niveau des acteurs nationaux.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Le premier résultat qu'on attend de ce projet, c'est de renforcer cette coordination-là par la prise de texte. Vous savez qu'il y a la loi sur le changement climatique. Il y a un projet de loi qui est en cours avec ses décrets d'application. Mais en attendant que la loi ne soit opérationnelle, il nous faut mettre en place des dispositifs pour que cette coordination donc, soit renforcée. Donc, il y a des textes, il y a des arrêtés qui seront pris. Mais aussi, il faut qu'au niveau des partenaires techniques et financiers qui apportent des financements pour l'action climatique, il faut qu'à leur niveau, il y ait une bonne coordination. Parce que souvent, il y a beaucoup de ressources qui vont sur la même priorité. Alors que si on parle avec ces partenaires-là, que la coordination avec eux est renforcée, ça va nous permettre de mieux utiliser ces ressources et d'aller vers des priorités bien identifiées et diverses pour ne pas que on aille vers le même secteur de sorte à lutter efficacement donc contre les changements climatiques.
Vous avez parlé tout à l'heure de décrets. Une chose est de les prendre et une autre est de les faire exécuter. Quels sont les moyens à votre disposition pour faire exécuter ces décrets qui seront pris?
Évidemment, la coordination du projet fera tout pour que dès la prise de ce décret, la population soit informée. Surtout les acteurs étatiques qui travaillent dans les différents secteurs. Parce que le décret, c'est d'abord pour eux, pour assurer cette coordination-là. Parce que l'un des objectifs du projet, c'est pour mettre en place un dispositif de suivi des engagements qui sont pris. Ça, c'est une grosse composante du projet. Alors, ces arrêtés vont permettre donc d'assurer cette coordination d'abord au niveau des ministères, mais avec le secteur privé également et les organisations de la société civile. Et c'est à nous de faire en sorte au niveau de la coordination que ce texte soit connu. Une fois qu'il est connu, on mettra des dispositifs, mais on commencera forcément par la sensibilisation et l'information.
Alors, que contient ce texte?
Il est donc prévu dans ce projet d'arrêté, même s'il n'est pas encore totalement achevé parce que le consultant il est en train de travailler, mais les orientations que nous voulons donner, c'est de mettre en place des points focaux par ministère. Les points focaux existent déjà, mais comment renforcer leur mission pour qu'ils s'intéressent à notre projet et à l'action climatique. Donc des dispositifs, des propositions vont être faites pour que les points focaux aient des missions bien précises, avec des cahiers de charges. C'est ce que le décret va donc permettre de faire, les responsabiliser dans leur rôle de point focal. Le décret va définir un certain nombre de matériels qu'on mettra à leur disposition pour renforcer et leur permettre d'opérationnaliser leur rôle de point focal. L'autre chose donc que le décret va permettre donc peut-être au niveau donc de la coordination, c'est de voir donc le rôle des directeurs de cabinet. Parce qu'ils sont quand même un maillon politique important. Il faut qu'on fasse en sorte qu'ils puissent nous aider dans la mobilisation des techniciens, en fait, qui sont les points focaux. Je dis que une fois qu'il sera donc finalisé, il va apporter un peu plus de clarification. Mais voilà la vision dans laquelle nous voulons évoluer.
Transition bas carbone, agir ensemble contre le réchauffement du climat ou pour le climat?
Agir ensemble pour le climat, on a l'habitude de dire que nous avons une seule planète. Elle est en train d'être détruite. Il fait de plus en plus chaud. Est-ce qu'on va agir contre la planète? On va agir pour la planète. Mais pour que nous puissions vivre sur la planète, évidemment, il faut que le climat soit un climat qui nous permette de vivre. Il faut que ce soit un climat doux. Aujourd'hui, on a peur même de sortir dans Abidjan parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc les actions qui doivent être menées, c'est pour que le climat soit un climat qui permette la vie. C'est pour ça que nous avons dit agir ensemble pour le climat. Réduire le climat qu'on a connu quand on était petit. Il y avait des saisons bien précises. Nos parents, beaucoup n'étaient pas allés à l'école. Mais leur calendrier agricole était calé sur les différents mois de l'année. On sait que chez nous, je suis un enfant de la forêt. On sait que là-bas, pour faire tout ce qui est culture de riz, on sait qu'en janvier, on va avoir un climat chaud, il va faire chaud. Donc les parents, ils coupent les herbes. Ils savent que jusqu'à mars, avril, il va y avoir les premières pluies. Ils vont semer le maïs. Et ils savent qu'en juillet, en juin, on va aller aux productions. Donc, c'était des saisons qui étaient bien calées et on n'avait pas besoin d'aller loin à l'école pour caler toute cette stratégie-là sur ces saisons-là. Mais aujourd'hui, en janvier, il pleut. Finalement, notre action doit être en faveur du climat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi le slogan « Agir ensemble pour le climat ».
Je ne sais pas, Frédéric, des exemples, il en existe. Pouvez-vous nous donner quelques-uns qui ont bien marché, qui ont bien fonctionné dans d'autres pays et comment cela peut s'adapter au contexte de la Côte d'Ivoire? Je vais parler de transition bas carbone.
Évidemment, je vais prendre le secteur du transport quand on parle de transition. Aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. On parle de transport. Je vais vous conter une anecdote. On était allé à une des COP. C'était à Glasgow, je pense.
Si, en si. Écosse.
En Écosse, à Glasgow. Et le matin, on devait sortir pour aller, évidemment, sur le site de la COP. C'était un jour ouvrable. Je sors du petit hôtel dans lequel je résidais. Et je sors sur le parking. Je me rends compte que tout le parking est rempli de véhicules. Non. Et j'ai demandé au responsable de l'hôtel, est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour férié ici? Il m'a dit non. Il dit, mais pourquoi le parking est rempli de véhicules? Donc les gens n'utilisent pas leurs véhicules pour aller au travail alors. Il dit, mais ils sont déjà partis au travail. Et que les véhicules sont utilisés parfois les week-ends. Mais parce qu'ils empruntent les bus, ils empruntent le métro, ils priorisent le transport en commun. Alors que chez eux-mêmes, ils ont des véhicules qui sont des véhicules récents. Mais madame, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on a des véhicules de seconde main, de troisième main, même de quatrième main, qui émettent beaucoup de CO2. Dans ces pays, ils priorisent le transport en commun qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En Côte d'Ivoire, c'est ce que le gouvernement est en train de faire à travers le métro d'Abidjan, dans lequel nous fondons beaucoup d'espoir. À côté de nous, au Sénégal, il y a les BRT qui fonctionnent. Au Maroc, on a le métro. On a peut-être dit que c'est les pays nord-africains qui sont plus développés que nous. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est sur ce chemin-là. Donc c'est un exemple dans le secteur du transport qui a réussi. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une réglementation qui interdit l'entrée des véhicules à titre de plus de 5 ans. Mais ça réduit les émissions. Et ça permet de vivre dans un climat vivable, comme je peux le dire. Et les véhicules qui circulent à Abidjan font moins de bruit là où les vieux véhicules faisaient beaucoup de bruit. Donc bref, il y a beaucoup d'exemples, madame, mais je pense qu'on est sur le bon chemin.
C'est vrai, il y a beaucoup d'exemples, vous le dites. Mais lorsque vous prenez le tronçon Adjamé-Bengerville, vous avez les véhicules qui datent de Matusalem. Quand on était petite, nos parents empruntaient ces bacas-là qu'on appelle les 22 places et qui continuent de circuler.
La disposition est prise, mais madame, vous convenez avec moi que le changement de mentalité, c'est un processus. Tout ne va pas s'arrêter en un jour. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut beaucoup d'informations, il faut beaucoup de communication. Et je pense que l'État a commencé à prendre des actes qui sont des actes qui parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous espérons que d'ici 5 ans, 10 ans à venir, ce type de véhicule dont vous parlez, on ne le verra plus donc sur le parc automobile de la Côte d'Ivoire. Le décret est pris il n'y a pas longtemps. On sent déjà les effets au niveau d'Abidjan. Mais je suis d'accord avec vous, évidemment, qu'il y a encore ce type de véhicule-là qui existe. Mais bon, on espère que comme le processus de changement de mentalité, le changement est un processus qui met du temps, on va le faire, mais je pense qu'on va y arriver. On a foi qu'on y arrivera.
Projet transition bas carbone, agir ensemble pour le climat. Quels sont les challenges auxquels vous faites face pour la réussite du dit programme?
Évidemment, les défis qui sont pour nous, les défis à relever, c'est vraiment la mobilisation des parties prenantes. Beaucoup de projets ont commencé, n'ont pas atteint leurs résultats parce qu'il y a eu un désintérêt de la part de la population. Peut-être parce que les équipes de coordination n'ont pas su communiquer. Et donc pour nous, la communication, c'est un défi majeur. Il y a l'aspect renforcement des capacités parce que je vous ai parlé de la mise en place des systèmes de suivi. Évidemment, ce sont des activités qui demandent beaucoup de renforcement des capacités. On a les techniciens en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les changements climatiques sont un peu comme une nouveauté pour beaucoup de personnes. Alors, quand on parle de mise en place de systèmes de suivi, évidemment, il va y avoir beaucoup de modélisation, il va y avoir l'utilisation de beaucoup de types de modèles auxquels, forcément, les fonctionnaires qui sont dans ces ministères ne sont pas toujours habitués. C'est pour ça qu'on fera venir de l'expertise, leur capacité. Donc, vraiment, cet aspect-là demeure un enjeu pour nous. Évidemment, l'autre enjeu qui est pour nous un enjeu majeur, c'est vraiment d'arriver à prendre en compte les collectivités territoriales qui sont des maillons importants dans le processus de développement, de sorte que le projet intéresse finalement toutes les parties prenantes, y compris les ministères sectoriels, mais aussi les structures décentralisées, pour qu'on puisse vraiment aller vers des résultats concrets.
Dernière question, quels sont les résultats attendus à court, moyen et long terme?
Nous attendons d'ici 2-3 mois les textes pour renforcer la coordination nationale. On a déjà des experts du CITEPA, qui était un cabinet français, qui nous appuie dans le renforcement des capacités pour asseoir le système de suivi. Avec eux, nous avons eu un atelier de renforcement des capacités dans le cadre de la mise en place du système de suivi. Évidemment, on a commencé L'année dernière, on a déjà ces premiers résultats-là. Vous savez qu'au démarrage, ce n'est pas toujours facile pour les projets parce qu'il faut faire les textes qui créent le projet, il faut les faire signer. C'est un processus administratif qui met du temps. Mais Dieu merci, nous avons franchi cette étape-là. Nous rentrons de plein pied dans l'opérationnel. En janvier dernier, nous avons validé toute notre planification jusqu'en 2026 parce que le projet a commencé en 2023. Il finit en 2026. C'est un projet qui est financé à autour de 6 millions d'euros. Donc on avoisine les 4 milliards avec une contrepartie de 875 millions de la part de l'État. 875 millions de francs CFA pour la partie nationale, c'est ce que l'État apporte. Vous savez que quand il y a un projet qui est financé, l'État contribue. Les nouveaux engagements climatiques de la Côte d'Ivoire sont estimés à 22 milliards de dollars. C'est important et nous devons tous nous mobiliser. Au niveau national, l'État prend déjà beaucoup, 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 beaucoup d'initiatives. Mais pour ce que le bailleur nous donne, c'est 6 millions d'euros. Quand on fait le calcul, je pense qu'on a avoisiné 4 milliards. Nous comptons également sur les partenaires pour avancer.
La Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et au-delà, le monde entier, en un mot, notre planète, souffre des effets du changement climatique. Nous devons donc inverser la tendance en changeant nos modes de production et de consommation. Bien vivre, c'est vrai, mais nous devons permettre à ceux qui arrivent d'en bénéficier car nous n'avons qu'une seule planète, la Terre. Et la contribution du projet Transition Bas Carbone, c'est d'arriver, selon son coordonnateur, à faire en sorte que les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire qui ont été pris soient bien suivis et mis en œuvre pour que le pays, qui est une nation faisant partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, puisse jouer son rôle. Et à ce stade, l'ensemble des Ivoiriens, des acteurs, des médias, des ministères sectoriels, des structures décentralisées et du secteur privé, des organisations de la société civile, puis des bailleurs de fonds, tout comme des partenaires au développement avec lesquels les engagements climatiques ont été élaborés, doivent tous se mobiliser pour le climat. Zakwa Frédéric, coordonnateur national du projet Transition Bas Carbone Agir pour le climat, je vous remercie.
Moi, je vous remercie et ce serait un plaisir de vous accueillir à nouveau pour faire un bilan encore peut-être à mi-parcours du projet, voir par rapport aux activités qui ont été menées, qu'est-ce que nous avons pu obtenir. Et si vous le souhaitez également, peut-être à la fin du projet, on se retrouvera pour faire un bilan global.
À la technique, il y a Antoine Kouassi. À ce micro, Marthe Kakou. Merci de votre attention et à bientôt.
C'était l'entrevue Radio de la Paix.